Alors aujourd'hui, eh bien, comme dans toutes les messes, comme à chaque dimanche, il y a un enseignement qui est transpris et qui est propre à ce jour et qui s'ajoute à tout l'enseignement des dimanches précédents. Alors, aujourd'hui, cet enseignement, il porte sur l'attitude de notre vie et sur notre rapport à Dieu. Il touche à ce que nous devons être. Et je vais commencer par cet épître de saint Paul aux Galates qui nous met un petit peu mal à la tête parce qu'il n'est pas simple du tout. Et donc ce passage, eh bien, il faut l'éclairer à la lumière du 21e siècle. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. La forme qui est développée dans ce texte, eh bien, c'est la forme qui était développée dans l'art oratoire antique, la fameuse probatio. L'objectif de l'argumentation, c'est dans la prise de parole ou dans une lettre, parce que là on peut supposer qu'avec les Galates il y a eu un échange de courriers, eh bien l'objectif c'est d'enseigner. L'orateur, il met en avant des preuves, il rappelle des textes, il rappelle ce qui se pratique ou ce qui ne se pratique pas, il montre sa connaissance. Et puis, il y a un autre objectif qui est celui d'émouvoir. Et donc, cette émotion, elle vient par les formules, par les tournures de phrases. Et c'est ce qui explique ce texte un petit peu, qui peut être perturbant pour nous. Alors, cette façon de construire l'argumentation, d'énoncer les choses, elle se rattache vraiment à cette culture antique. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est un peu parfois désemparé par rapport à ça. Si je résume, quelle est la question centrale qui est abordée par Paul ? Eh bien, Paul, il développe toujours cette opposition entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Alors, il faut être très précis dans ce que l'on entend. Qu'est-ce que saint Paul entend par la chair ? Souvent, on rattache ça au cœur, on rattache ça à la sexualité, et on fait un contresens total. La question de la chair, c'est la prétention de l'individu à tirer sa justification auprès de Dieu par des qualités qui lui sont innées. C'est l'élection du peuple juif, c'est la circoncision, ou alors par la pratique de la Torah, c'est-à-dire l'application de toutes les règles de pureté. C'est ce que saint Paul, dans son texte, il va englober en parlant des œuvres de la loi. Et puis les œuvres de l'esprit, eh bien, c'est de toucher à l'essentiel, c'est de vibrer dans la présence. Et pour saint Paul, c'est de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, et c'est de s'ouvrir à une nouvelle vie dans la foi. Et c'est sur cette opposition qu'il argumente et qu'il défend cet héritage venant d'Abraham. Et je dirais, eh bien, il tacle un peu les personnes à qui il s'adresse pour les dérives dans leur façon d'observer leur foi et pour être trop proche, on dirait, des dimensions extérieures ou des règles, simplement, plutôt que d'être vraiment dans l'esprit de la religion. Et si on veut traduire ça en 2017, eh bien on dirait que les enjeux, c'est la différence entre la lettre et l'esprit. C'est pour certains, c'est être chrétien, c'est simplement être baptisé, faire sa communion, sa confirmation, aller à la messe, donner au denier du culte. C'est ce que saint Paul mettrait sous les œuvres de la loi. Et ce que le Christ a dit dans ses évangiles, c'est eh bien, si vous respectez simplement la lettre, eh bien, ça ne suffira pas pour entrer dans le royaume des cieux, ça ne suffit pas pour obtenir la vie éternelle. Et l'opposition que fait saint Paul, c'est cette dimension un peu du quantitatif, Ah ben vous savez, j'ai donné tant de fois pour les pauvres, j'ai donné tant de fois pour la paroisse. Et en fait, le Christ, il nous dit, mais attendez, c'est pas le chiffre qui compte. Et ce que saint Paul demande à la suite du Christ, c'est d'être dans cette dimension plutôt qualitative, d'être en esprit, d'être à l'écoute de la foi. Il faut sortir de nos certitudes et devenir libre. Il faut revenir à l'esprit de la promesse faite à Abraham. Et comme Abraham l'a fait quand il a entendu la parole de Dieu, eh bien, il s'est mis en route, il s'est mis en chemin, il a quitté son pays, il est allé vers cet appel. Eh bien, c'est ce fondement essentiel que saint Paul nous rappelle à travers cela. La phrase que Abraham a entendue, je la rappelle toujours parce que je la trouve très émouvante, on la traduit par « va vers toi-même pour ton bonheur ».« Va vers toi-même », c'est-à-dire « chemine, avance, va vers ce qui est véritablement ta nature, va vers ce que tu es au plus profond de toi. Et va vers toi-même pour ton bonheur », eh bien c'est en faisant cette démarche, en faisant cela, tu trouveras ton bonheur. La mise en route, et là je passe à l'évangile, parce que les deux sont en écho, eh bien, se mettre en route, c'est ce que vont faire ces lépreux. Ils vont aller se montrer aux prêtres, parce que à l'époque de Jésus, la prescription, c'était que les lépreux étaient mis complètement à l'écart de la société. Ils ne participaient plus aux relations sociales, ils n'avaient plus de métier, ils ne participaient plus au culte, ils étaient mis complètement en dehors. On peut même dire ils n'étaient même plus juifs, parce que les juifs ne se mélangeaient absolument pas avec les samaritains. Et là, il y a un samaritain au milieu des juifs. Donc vous voyez, c'est le dénuement, l'exclusion la plus totale d'être lépreux. Et la seule façon d'être réintégré dans la communauté, parce qu'on considérait que c'était quand même une malédiction divine, eh bien, c'était de faire constater sa guérison par les prêtres. Et à ce moment-là, eh bien, on pouvait revenir dans la société. C'est vraiment quelque chose de très très dur. C'est une grande souffrance. Et en croisant le Christ qui les guérit, eh bien, ces hommes se conforment tout simplement à la loi juive. On peut imaginer leur bonheur. Ils se voient guéris. Ils se mettent en chemin pour courir vers le temple, et ils savent que derrière ça, ils vont retrouver leur famille, ils vont retrouver leur maison, ils vont peut-être reprendre leur métier, ils vont enfin revoir leurs amis, avoir des relations. Et voilà, ils sont fous de joie, fous de joie. Et bien sûr, ils ne se retournent pas. Et donc, j'essaie toujours de dire, ne soyons pas trop durs, ne blâmons pas les neufs qui ne se retournent pas, parce que il faut aussi humainement comprendre ce qui se passe pour eux. Et puis se dire aussi qu'à notre propre niveau, eh bien, il y a sûrement des moments où nous n'avons pas vu Dieu agir sur notre vie, où nous ne l'avons pas reconnu dans ce qui s'est passé. Et se dire aussi que parfois notre bonheur construit par Dieu, eh ben, il peut aussi nous détourner de sa louange. Et c'est pour ça que ce Samaritain, il est très étonnant. Il nous interpelle, parce que ce Samaritain, il reçoit la même chose que les autres. Et puis, lui, il fait demi-tour et il revient vers Jésus. En revenant vers Jésus, il rend grâce à Dieu. Et du coup, dans les évangiles, c'est un épisode important parce qu'il témoigne de cette proximité avec Dieu. Si un homme ne peut pas agir comme le fait Jésus, s'il n'est pas pleinement revêtu de la divinité. Et ce que ce Samaritain témoigne, eh bien, c'est de cela. Mais il témoigne aussi que cette guérison extérieure, ce changement, ça provoque chez lui aussi un changement intérieur. C'est-à-dire, il en est retourné, sa vie, elle ne sera plus jamais la même, et il fait, il fait sa métanoïa, comme dirait notre évêque, il fait son retournement, il est transformé parce qu'il vient de vivre, et c'est de cette transformation intérieure et extérieure qu'il faut... dont il faut se réjouir, auquel il faut être attentif, et donc cet enseignement, eh bien, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je rapprocherai ça d'une phrase qu'on entend souvent et qu'on place de façon parfois un peu mal à propos. C'est, il est dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. On rattache souvent ça à la mort en disant, voilà, vous ne savez pas quand vous allez mourir et ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Eh bien, je dirais que cette sentence qui a été prononcée par le Christ, elle s'applique beaucoup plus à la rencontre avec Dieu, à la rencontre avec le Christ, à ce moment où on peut être retourné, où on peut basculer de l'autre côté, parce que d'un seul coup, les choses se sont éclairées, parce que d'un seul coup, on a été mis dans la présence de Dieu. Ça c'est l'élément, je dirais, essentiel qu'il faut retenir. Être dans cette présence. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'un miracle arrive et nous transforme. Mais il y a plein de choses qui peuvent nous transformer. Et dans l'émerveillement de ce Samaritain, eh bien, je dirais qu'il faut retenir la notion d'émerveillement. Et pour nous, chaque fois qu'on peut s'émerveiller de quelque chose, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, eh bien, lorsque nous sommes dans cette présence de la promesse, lorsque nous sommes en présence de l'Esprit, eh bien, chaque fois que celui-ci nous touche, sachons nous émerveiller et sachons, savoir nous retourner, savoir nous réjouir avec Dieu et dire au Seigneur simplement cette petite prière intérieure, merci mon Dieu, merci pour ce clin d'œil que vous me faites par une rencontre, par la beauté d'un paysage, par toute chose qui va ouvrir mon cœur et qui me montre véritablement votre présence. Amen.